Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Dans notre émission Ensemble, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Hervé Dumans qui va nous parler de l'ostéopathie. Monsieur Dumans est un jeune diplômé de cette discipline relativement récente qui est l'ostéopathie et il a ouvert un cabinet à Châteaudun depuis l'été dernier, un cabinet qui est tout proche de la salle de sport de Foucault. C'est très bien pour remettre en forme les sportifs, entre autres bienfaits que l'on attribue à cette discipline. Bonjour Monsieur Dumans.
Bonjour.
Donc racontez-nous un petit peu d'abord votre parcours et je crois que vous êtes dunois depuis de naissance.
Oui tout à fait. Oui bonjour à tous. Je suis effectivement originaire de Châteaudun. J'ai fait tout mon cursus scolaire sur Châteaudun jusqu'au bac. Et après, donc, je suis parti d'abord sur Tours et ensuite, donc, j'ai fait mon école d'ostéopathie sur Rennes, donc avec un cursus en 5 ans, par laquelle on est diplômé à la sortie et qui nous donne le droit d'exercer très modestement l'ostéopathie. Voilà, donc globalement, c'est un exercice libéral que moi j'exerce depuis juillet 2017.
Dites-nous, quand on va à l'ostéopathie, on ouvre le dictionnaire et puis on voit bien sûr, comme tous les mots de médecine, c'est un mot grec. Ostéo, c'est l'os, pathie, c'est souffre. C'est l'os qui souffre. Alors, comment est-ce qu'on est parti de l'os qui souffre pour arriver à votre. À instaurer cette nouvelle discipline et racontez-nous un peu l'historique de tout cela.
Voilà, alors il faut remonter donc à la guerre de sécession aux États-Unis, donc dans les années 1860 à peu près. Hein. Donc on est en pleine période de guerre et donc le fondateur de l'ostéopathie, donc qui s'appelle Andrew Taylor Steele, qui était médecin et donc qui participait au conflit donc en tant que médecin de guerre, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts, beaucoup de membres déchiquetés, enfin bon, on passe les détails. Et en fait, il va se détourner petit à petit du modèle médical classique parce qu'il va perdre ses 3 enfants au cours de cette guerre, et avec cette guerre l'épidémie de méningite qui a eu lieu donc pendant ces années-là et qui lui a fait perdre ses 3 enfants. Donc il va faire beaucoup de travail de recherche pour essayer une façon alternative de traiter les gens pour tout un tas de pathologies, sachant que à l'époque les traitements médicamenteux ne sont évidemment pas ceux que nous avons aujourd'hui.
Oui, les antibiotiques n'existaient pas encore, bien sûr.
Voilà. Tout à fait. Donc si vous voulez, donc à la fin des années 1800, on est contemporain avec les premières recherches microbiennes de Pasteur en France. Donc les traitements médicamenteux, c'était à base donc de calomel, chlorure de mercure, choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment d'anesthésier les gens pour qu'ils ne souffrent plus. En gros, hein, c'est surtout par cette période de guerre, hein, évidemment, de par les multiples blessures que les gens pouvaient avoir.
C'était déjà un peu l'euthanasie, alors.
Oui, un petit peu, oui. C'est-à-dire, c'était vraiment l'idée de tous les dérivés d'opium, tout ça, pour qui servaient d'antidouleur, qui servaient en gros à masquer les choses. Et donc, en 1874, il y a eu, après donc l'épidémie de méningite qui a malheureusement emmené ses enfants, il y a eu une épidémie de dysenterie aux États-Unis, donc sur les théâtres, enfin la guerre était finie hein, à ce moment-là, et donc du coup une épidémie de dysenterie, et on lui amène un enfant, et donc par un traitement donc avec les mains, c'est assez flou, hein, même les écrits historiques, on sait pas tellement comment il a fait, mais l'enfant a été soigné. Donc ça a été, voilà, on va dire, l'acte fondateur de l'ostéopathie, parce qu'il a soigné donc cet enfant qui était atteint de dysenterie. Et donc le bruit a couru, et donc là beaucoup d'enfants sont venus, donc avec des symptomatologies similaires, sont venus vers Monsieur Steele pour se faire soigner, donc avec cette nouvelle approche autre que par des substances médicamenteuses. Et donc plusieurs années vont s'en suivre, il va un peu affiner son modèle et il va créer donc en 1892 la première école d'ostéopathie à Kirksville, dans le Missouri je crois si je ne m'abuse, et donc il va être formé une première génération donc vraiment d'ostéopathes. Alors après, disons que le mot ostéopathe est peut-être pas forcément hyper approprié sur la façon dont on traite aujourd'hui, puisqu'on ne traite pas que l'os, mais voilà, c'était un terme qui a été utilisé au départ pour pouvoir mettre les choses en place, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, ils ne soignaient pas que l'os déjà à l'époque, donc c'est vrai que le terme était peut-être pas forcément très, très, très approprié. Voilà, mais c'est comme ça qu'est né globalement l'ostéopathie.
D'accord, il n'a pas dit pourquoi il avait choisi ce terme.
Non, enfin, il y a des écrits de son récit, enfin de ses recherches et de son travail. Mais en gros, pour lui, c'était un petit peu déjà son message principal, c'était la loi de l'artère reine. Et que c'était plutôt son but, c'était de rééquilibrer l'homéostasie. Pour les auditeurs, l'homéostasie, c'est l'équilibre global du corps humain par lui-même, c'est-à-dire l'autorégulation du corps humain. Et donc pour lui, l'idée, c'était en manipulant le corps, donc pas par des médicaments, mais avec ses mains, on arrivait à influencer cet équilibre naturel du corps humain.
Et donc, si on comprend bien, puisque la dysenterie, c'est une pathologie infectieuse, par son approche, il renforçait les défenses naturelles de l'organisme.
Voilà, en gros, oui, c'est plus ou moins ça, oui. Oui, tout à fait. Et donc après, bon, si on part sur un aspect un tout petit peu plus technique, on peut supposer qu'en travaillant effectivement tout le système viscéral, il a pu déjà diminuer un petit peu le caractère inflammatoire de la zone et effectivement pouvoir jouer sur la régulation automatique du corps humain. Voilà, donc ça a été la première base. Après, le modèle a évolué avec ses disciples qui ont fait développer d'autres champs dans l'ostéopathie, notamment le champ crânien, par exemple. Où c'est un de ses disciples qui s'appelle William G. Sutherland, qui a mené beaucoup d'expérimentations, et notamment sur lui-même, pour expliquer la mécanique crânienne, par exemple.
C'est-à-dire
que lui, il partait du postulat que le crâne bouge. C'est-à-dire que les os du crâne entre eux bougent un petit peu, mais bougent. Et que du coup, si on arrivait à jouer là-dessus, on pouvait résoudre tout un tas de problématiques et que l'équilibre du corps pouvait aussi passer par cette voie.
Oui, donc on comprend bien l'os là, puisque...
Oui, là, pour le coup, là oui, là oui, là oui, là, dans ce cas-là, oui. Voilà.
Bon, on va faire une première pause musicale avant de reprendre... Nous reprenons notre émission du studio de Châteaudun, Radio Grand Ciel, avec M. Hervé Dumans, ostéopathe, qui nous a décrit les origines donc de cette nouvelle approche thérapeutique. Et maintenant, Dites-nous comment est-ce que cette discipline est arrivée en France, dans notre pays, à partir des États-Unis.
Voilà, donc fin des années 1800, donc la première école est créée, et dans les disciples de Monsieur Steele, il y avait au départ beaucoup d'Anglais qui venaient sur le continent américain pour se faire former. Donc on va dire le départ européen de l'ostéopathie, ça a été l'Angleterre, donc qui a très vite reconnu l'ostéopathie en tant que telle. Hein, dans les années 1900, ça s'est vite déclaré comme étant une discipline reconnue. Et du coup, beaucoup d'ostéopathes qui sont en fin de carrière aujourd'hui ont été formés en Angleterre, notamment dans une école qui s'appelle, Maidstone. Beaucoup d'ostéos qui sont en fin de carrière aujourd'hui ont été formés là-bas. Et donc c'est, on va dire, dans le milieu des années 50 que l'ostéopathie est arrivée en France par des gens qui ont été formés effectivement par Steele ou en Angleterre et qui sont revenus pour pouvoir faire développer cette discipline en France. On va dire que l'accueil a été assez frais de la part du monde médical, globalement. Il y a eu beaucoup de... Pour eux, c'était un exercice illégal de la médecine. Donc c'est vrai qu'on a lutté longtemps contre ça. Et en gros, le statut légal de l'ostéopathie a été donné qu'en 2002, sous l'égide de Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque.
Et qui, lui-même médecin.
Voilà, et qui a conféré à l'ostéopathie un statut par une loi santé qu'il avait fait à l'époque et qui comprenait cette chose-là. Et donc par la suite, en 2007, sont sortis des décrets d'application pour encadrer l'exercice de l'ostéopathie. Et en 2014, il y a eu une réforme de la formation pour mieux encadrer la formation et les établissements de formation en ostéopathie. Donc on va dire que c'est quand même assez... l'ostéopathie est arrivée en France depuis quand même un certain temps, mais on va dire le développement juridique et institutionnel de l'ostéopathie reste quand même assez récent. C'est-à-dire qu'entre les années 50 et 2002, c'était un exercice un petit peu bancal. C'est-à-dire qu'un ostéopathe pouvait à n'importe quel moment être attaqué pour exercice illégal de la médecine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y a eu énormément de plaintes des conseils d'ordre médicaux ou kinés pour attaquer des ostéopathes parce que pour eux, c'était de l'exercice illégal de la médecine. Voilà. Donc, les mentalités sont en train fort heureusement d'évoluer par rapport à ça, de par la reconnaissance du statut, d'une part, et puis parce qu'ils se rendent compte aussi du bienfait qu'on peut avoir aussi. Mais bon, faut laisser le temps de mûrir l'idée. Voilà.
Donc, vous avez suivi une formation à Rennes. Oui. Et il y a donc en France actuellement environ une école par région, on peut dire ou...
Non, un peu plus que ça. C'est-à-dire que il y a plusieurs secteurs géographiques qui ne sont pas du tout pourvus, mais sur certains secteurs, il y a une concentration d'écoles un peu plus importante. Par exemple, si on prend l'ouest de là où j'ai été, il y a Rennes et il y a Nantes qui n'est pas loin. Donc ça fait quand même deux écoles proches.
Oui, à 100 km, c'est vrai.
Voilà.
Oui. Alors vous nous dites 5 années, mais est-ce que vous pouvez préciser un peu le contenu des études? Parce que c'est vrai qu'après 5 ans d'études, on a sûrement déjà un bon bagage.
Oui, tout à fait. Alors bon, depuis 2014 et la réforme, le programme a un peu changé. Mais si je prends pour ma part à moi, les deux premières années sont quand même essentiellement théoriques. Avec les enseignements d'anatomie, évidemment, d'anatomie palpatoire, de biomécanique, de physiologie des organes et tout ça. On commence à aborder un petit peu la pathologie, mais l'essentiel de la pathologie intervient surtout en troisième et quatrième année. Et pendant tout le long du cursus, on apprend l'approche ostéopathique, donc les différents aspects, c'est-à-dire l'aspect musculo-squelettique, l'aspect viscéral, l'aspect crânien. L'école avait fait le choix de nous l'enseigner sur tout le long du cursus jusqu'à la fin de quatrième année. Et la dernière année était plutôt consacrée donc à la clinique, parce qu'on avait une clinique dans l'école qui nous permettait déjà de faire nos premières consultations. Et puis donc sur les terrains d'entreprise et les terrains sportifs, on traitait déjà des sportifs sur des événements ponctuels et aussi donc sur le mémoire de fin d'études à réaliser.
Est-ce qu'éventuellement, il y a des stages prévus chez des ostéopathes déjà installés, comme ça se fait pour les études de médecine en...
Oui. Alors, moi, pour moi, c'était les 100-120 heures à faire sur les deux dernières années de stage chez des praticiens déjà exerçants et depuis plus de 5 ans. Et là, dans le nouveau référentiel, il y a toujours ces heures-là dans la dernière année, mais il y a aussi 50 heures à faire sur la première année. Voilà, en première année et les deux dernières années, des heures de stage à faire chez des praticiens diplômés.
Avec tout ce bagage là, vous avez eu quelques... on est étonné de voir en fait beaucoup d'intérêt de la population qui volontiers viennent voir les ostéopathes, et même les jeunes générations ont tendance à s'établir, même dans la région de Châteaudun. J'ai entendu parler du côté de Logron, du côté de la Bazoches-Gouette.
Oui.
Alors, expliquez-nous un peu le succès de l'ostéopathie.
Alors déjà, je pense que le succès de l'ostéopathie a été augmenté, du coup, pas mal par la reconnaissance légale du statut. Donc, on a eu nos plaques à devoir mettre devant nos portes, on a eu tout ça. Donc, ça met un gage de confiance quand même déjà de base pour les gens. Et puis, bon, il y a l'efficacité, on va dire, grandissant, enfin... Les gens se rendent compte que ça leur fait du bien, et puis il y a aussi l'aspect de prendre moins de médicaments, surtout des antidouleurs. On connaît les effets indésirables, par exemple des anti-inflammatoires au niveau notamment de l'estomac et tout ça. Donc voilà, les gens y trouvent une alternative intéressante dans les problématiques de douleurs, et notamment le mal de dos qui est devenu le mal du siècle, l'expression consacrée. Donc tout sur ce genre de problématiques là, on est tout à fait à même d'intervenir, et les gens y trouvent aussi quelque chose. Dans le sens où, par contrainte, je pense, plus qu'autre chose, les médecins ont moins de temps à pouvoir passer avec les patients, notamment dans les zones rurales comme ici, où les médecins sont débordés, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir passer vraiment du temps avec leurs patients, et nous, on répond aussi à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on passe entre une demi-heure et une heure par patient. Donc le patient se sent peut-être écouté, bien suivi, et qu'il y trouve peut-être quelque chose qu'il ne peut plus trouver forcément chez son médecin. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, je fais pas une généralité, mais ça peut, voilà, ils peuvent aussi trouver ça.
Quand vous parlez du mal de dos, c'est quel segment du rachis exactement est le plus malmené? Quel étage?
Plutôt donc au niveau lombaire, hein, évidemment, toutes les problématiques des sciatiques, des hernies discales, enfin tout ça, c'est des choses qui sont connues, ce qu'on appelle la lombalgie, ou éventuellement dans le cas le plus aigu, le lumbago, le fameux lumbago. Donc ça, là-dessus, c'est quelque chose qu'on a très fréquemment au cabinet, et aussi au niveau des cervicales. Pareil pour les mêmes problématiques, des hernies discales, de l'arthrose, enfin toutes ces choses-là. L'arthrose touche plus facilement les lombaires et les cervicales. Donc, effectivement, on est amené plus à traiter des cervicales et des lombaires. Le segment thoracique est, bon, voilà, un peu moins souvent problématique.
Et en dehors du rachis, vous intervenez surtout sur les articulations périphériques, et à quel niveau surtout ?
Alors, donc le champ d'action est extrêmement vaste et relativement méconnu, je dirais. Donc effectivement, pour tout ce qui est problématique de séquelles d'entorse de cheville, problématique de genoux, de hanches, d'épaule, même aussi de poignets, enfin tout ce qui touche aux articulations, ça on peut travailler, il n'y a aucun souci, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tout ce qui est l'aspect viscéral, donc les ballonnements, les douleurs de ventre récurrentes, ou alors des douleurs liées au cycle, par exemple, aussi, tout ce qui est maux de tête, sinusite chronique aussi un petit peu, les douleurs de la mastication, par exemple, ce genre de choses-là. On intervient vraiment sur beaucoup, beaucoup de choses.
Nous allons maintenant faire une seconde pause musicale. Radio Grand Ciel Châteaudun, nous reprenons l'interview de M. Dumans sur l'ostéopathie. Et M. Dumans, maintenant, la question est, qu'est-ce qui différencie l'ostéopathie de la kinésithérapie ?
Voilà, donc ça c'est une question qui est très souvent et très régulièrement posée par les patients et par les autres professionnels qu'on peut être amené à rencontrer. Donc nous, l'ostéopathie, on essaye d'avoir une approche, on va dire, la plus globale possible et d'essayer de trouver vraiment la cause d'une problématique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend par exemple le cas de la lombalgie, on peut être amené, par exemple, dans notre examen clinique, à retrouver une problématique au niveau de la cheville, par exemple, une cheville bloquée qui entraîne une différence d'appui et qui fait que c'est les lombaires, par exemple, qui vont compenser. Donc nous, on va plutôt essayer de traiter la cheville pour que le problème lombaire disparaisse. Tandis que eux, les kinés, ils vont plus être sur une approche locale du problème, donc ça peut être aussi tout à fait efficace. Donc ils vont chercher à traiter la problématique lombaire, donc par le massage ou par l'utilisation de matériel, éventuellement les ballons, éventuellement les électrodes ou des choses comme ça. Et en fait, la principale différence aussi, c'est que le kiné est sur prescription. Ce qui n'est pas notre cas, globalement. C'est assez rare que le médecin envoie directement chez un ostéopathe, même si ici, ça se fait un petit peu. Le kiné est sur prescription. Il est très rare aujourd'hui qu'un patient aille chez le kiné sans être passé par le médecin au préalable. Donc du coup, c'est un petit peu le médecin qui va dire au kiné, bah voilà, je donne tant de séances pour que vous fassiez ça, ça et ça, par rapport à telle problématique. Donc on n'est pas sur le même mode de fonctionnement. Voilà un petit peu comment on peut différencier les deux. Et eux, bon, par exemple, tout ce qui est sur les bébés, bronchiolite, tout ça, la kiné respiratoire, eux, c'est leur champ de compétences propre. Nous, on n'intervient pas spécialement là-dessus, même si on intervient sur les bébés pour d'autres types de problématiques. Voilà, et donc chacun a quand même son champ de compétences propre.
Alors, un petit point de détail, c'est que la sécurité sociale qui se presse jamais d'augmenter ses frais, car elle est toujours en déficit chronique, pour le moment ne prend pas en charge la consultation des ostéopathies, mais peut-être certaines mutuelles en fonction des conventions.
Oui, voilà, tout à fait. Donc la principale différence aussi entre kiné et ostéo, c'est que eux sont profession de santé, pas nous. Nous sommes profession de soins. Donc la différence peut paraître subtile, mais elle fait que nous ne sommes pas dépendants de la sécu, nous, en tant qu'ostéopathe. Donc effectivement, nous, on ne prend pas la carte vitale, enfin, il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. Donc après, effectivement, ce sont les mutuelles, selon le contrat dont chacun dispose. Hein, nous, on n'est pas maître de cela. Hein, après, c'est chacun qui doit consulter auprès de sa mutuelle pour savoir s'il a des remboursements ou non de la séance d'ostéopathie. Et puis, s'il y a remboursement, eh bien nous faisons des factures d'honoraires que les patients envoient à leur mutuelle pour avoir le remboursement sur soit une part sur une séance ou sur un nombre complet de séances à l'année. Ça, c'est les mutuelles qui définissent ça selon les différents types de contrats qu'ils proposent à leurs adhérents. Voilà.
On parle aussi de non seulement de massage, mais aussi de traction, de manipulation, du moins dans certaines situations. Est-ce que vous êtes amené dans l'ostéopathie à faire des un peu comme les chiropracteurs ou...
Oui, on a des techniques qui ressemblent à ça, donc avec ce que les gens appellent le crack. Après, les gens aiment ou n'aiment pas quand ça craque. Mais oui, on peut être amené à le faire selon sa sensibilité personnelle par rapport à la pratique ostéopathique et aussi si la demande, le motif de consultation du patient l'exige ou pas. C'est très variable. Il y en a qui manipulent beaucoup, d'autres moins ou pas du tout. Enfin, l'ostéopathie nous offre une palette suffisamment large pour ne pas être restreint à un type de technique. C'est ce qui est l'avantage.
Et vous dites vous-même, vous avez bien mis l'accent par rapport à la kinésithérapie, une approche plus globale, essayer de bien de bien se rendre compte de l'organisme pris en charge complètement, de même qu'un médecin généraliste va mieux prendre en charge l'aspect global qu'un spécialiste. Et de ce fait, vous avez des contacts avec les autres professions de santé pour justement pour veiller à cette approche globale.
Oui, bien sûr, tout à fait. Alors bon, le premier interlocuteur et le plus important, c'est quand même le médecin référent, le médecin généraliste. Parce que bon, si on estime que parce qu'on est formé suffisamment bien au diagnostic, ce qu'on appelle d'opportunité ou d'exclusion, c'est-à-dire tous les cas qui ne sont pas de notre ressort, donc c'est à nous de dire au patient, vous allez voir votre médecin, vous passez des examens complémentaires, et voilà, il y a une communication qui peut être faite ou pas avec le généraliste, hein, ça c'est en fonction de lui et de sa sensibilité par rapport à l'ostéopathie. Autrement, on est amené souvent à travailler avec les podologues, notamment sur tout l'aspect posture de la personne. Si j'en reviens à mon problème de cheville de tout à l'heure, si une personne a un décalage de longueur de membre, si on la corrige par une semelle par exemple, on peut arriver à corriger un problème de lombalgie chronique. Bon, c'est un cas comme ça, c'est pas une généralité, mais voilà, on peut être amené à travailler ensemble par rapport à ces notions-là. Pareil avec les orthoptistes qui font les rééducations des yeux, sur ce pareil, des aspects de posture, ça peut être aussi intéressant de travailler avec eux. Avec les kinés aussi, hein. Enfin, on a un travail assez complémentaire finalement, hein, sur par exemple une problématique de suivi par exemple post-opératoire pour une hernie discale par exemple. Nous on peut tout à fait travailler, et puis eux aussi pour arriver à soulager les patients.
Eh bien, merci Monsieur Dumans pour ce grand panorama de cette nouvelle discipline, et sûrement qui va sûrement être très apprécié de toute la population, surtout qu'à chaque consultation en plus, vous faites une prise en charge d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, même une heure. Et donc tout ça, c'est important de passer du temps aux patients, éventuellement de revenir vous voir si nécessaire, bien sûr, et surtout maintenant, vous êtes facilement joignable puisque vous êtes au centre-ville rue Foucault, tout près du stade de même nom et du lycée Émile Zola.
Voilà.
Et encore merci pour votre présence à Radio Grand Ciel.
Merci à vous.